Bonjour à toutes et à tous et bonjour chère Élodie.
Bonjour Eric et bonjour à toi qui nous écoutes.
Et nous voilà repartis pour un nouvel épisode de
Sac à dos.
Et là, on espère qu'il n'est pas trop lourd votre sac à dos puisque vous avez vu le titre, c'est Stress or
Not Stress.
Voilà, donc on va essayer de s'alléger un peu plus par des petites explications qu'on espère les plus simples possibles sur des notions qu'on mélange souvent un peu.
Oui, c'est vrai. Et promis, on ne vous prend pas l'accent british.
Non, pas du tout. On va le faire franco-français. D'ailleurs, on a à côté de nous, je ne sais pas si vous entendez, aînés les gars.
On a une canne et un canard.
Voilà, on a un petit
colvert. Ils sont vraiment à nos pieds.
Ils sont à nos pieds.
Ils sont adorables.
Et là, il y a nos stress de leur part. Vraiment, il y a nos stress.
Je ne crois pas qu'ils vivent l'anxiété.
À mon avis, c'est plutôt un besoin de bouffe, là. Ils ont faim. Mmh. On va les prendre en photo. Vous les verrez peut-être sur prochaine plateforme.
Ils sont trop chauds.
Mmh. Oui, sujet ô combien délicat.
Ô combien délicat, tout
à fait. En même temps technique.
On n'a pas trop envie de se prendre au sérieux, donc on va dire...
On va le faire
en même temps,
léger.
On va le faire léger, rigolo.
Avec la question qui nous a été posée en début de semaine dernière...
Exactement, par Marie-Christine.
Et voilà, on a une question de Marie-Christine. Mmh. Manifestement, cette question est contextualisée.
C'est dans son lieu professionnel, elle va bientôt... passer devant sa manager pour un rendez-vous qui concerne son rendez-vous annuel, et on dit ça les EA dans le jargon de l'entreprise.
L'environnement professionnel, les entretiens annuels.
Annuels professionnels.
Et donc, sa question est la suivante.
Sa question est la suivante. Je vais bientôt avoir rendez-vous avec ma manager pour discuter est-ce normal d'être stressé ? Je n'arrive plus à définir la différence entre stress, angoisse et anxiété. Pouvez-vous m'aider ?
Là, c'est une vraie question. Et alors, il n'y a pas que Marie-Christine qui se pose cette question-là.
Non.
Parce qu'en général, les gens qu'on accompagne et les gens qui nous interrogent là-dessus, ils mélangent un peu tout. Je me sens pas bien, je me sens stressé, je suis angoissé. Et en général, quand la personne dit « je suis angoissé », elle ne le dit pas de la même façon quand elle dit « je suis stressé ».
Oui, exactement. Ça ne se lit pas pareil dans le corps et ça ne se vit pas non plus pareil.
Et ça ne se dit pas pareil. Est-ce que tu peux justement nous apporter quelques explications, Élodie, par rapport à ça?
Est-ce qu'il serait intéressant pour vous, auditeurs, alors vous allez me dire, oui, super intéressant. Bon, c'est pas grave, j'aurai votre réponse plus tard. Du coup, d'aborder le thème, la thématique de étape par étape. On va peut-être commencer par le stress,
exact.
Le définir, savoir ce que c'est, et puis on avancera après au pays de l'anxiété, et puis après au pays de l'angoisse.
Voilà, exactement. On va commencer par le premier niveau.
On n'est pas à Disney, mais
oui.
Voilà.
Ah, non.
On fait des landes.
Voilà, on fait des landes, et on va commencer par le premier territoire, qui va être celui du stress.
Alors, celui du stress, et ben, du coup, c'est quoi le stress? Comment je sais que je suis stressée? Ben, ça veut dire que vous allez avoir une réponse physiologique qui est déclenchée par votre organisme et c'est lié à l'environnement, en fait, en vue de vous y adapter. Donc, c'est quelque chose qui est très court, finalement. C'est sur un instant donné, avec une situation donnée. C'est vraiment quelque chose qui est plutôt court. On dit toujours que c'est de l'adaptation à l'environnement. Alors, le stress, il est souvent déclenché par des défis, par des challenges. Là, quand on a un EAP, un entretien annuel professionnel, bah, c'est un petit peu stressant peut-être de pouvoir peut-être relater tout ce qu'elle a fait, toutes ses missions durant l'année et de rien oublier parce que c'est ça, hein, c'est durant son entretien, on le prépare, mais il faut savoir qu'il se passe beaucoup de choses dans l'année, on a toujours peur d'oublier quelque chose. Il y a peut-être ça, c'est le sens aussi du défi et du challenge. Donc c'est à partir du moment où on a de la menace, de la contrainte, de la modification, mais également de l'exigence.
L'exigence, et puis aussi une notion d'enjeu aussi derrière. Là, c'est un entretien dans lequel il y a un enjeu, c'est celui d'une notation annuelle, d'une appréciation portée par la hiérarchie, par exemple. Et donc, là où certaines personnes n'y verront pas de nécessité d'adaptation parce que l'exercice pour eux est fluide et se vit très bien, pour d'autres, ça peut être vécu de manière plus stressante parce que derrière, il y aura de l'enjeu, puisque derrière, il y aura pour eux un besoin... lié à leur image, à leur identité, à la juste reconnaissance de leur travail, etc., etc., ceci variant pour chacun des individus. Mais ça peut être le cas aussi d'une personne qui doit prendre la parole en public à une réunion, dans un amphithéâtre, qui doit faire pour la première fois une présentation ou une formation, et qui va se retrouver dans un nouvel environnement, des personnes qu'il ne connaît pas, peut-être que sur une thématique qu'il maîtrise ou pas, et qui va devoir, en fait, s'adapter à la situation, tout simplement.
Exactement. Et là, quand on vous dit que vous allez avoir une réponse physiologique, c'est quelque chose qui se joue dans le corps. Alors, vous avez certainement connu les mains moites, les contractions musculaires peut-être de la mâchoire.
Du dos.
Du coup. C'est genre, vous avez peut-être aussi avoir l'impression d'avoir aussi les jambes qui tremblent.
Ces petites
manifestations-là physiologiques qui vous permettent de dire que c'est un stress. Alors attention les amis quand même, parce que le stress, c'est pas non plus néfaste. Quand le stress il est trop bas, du coup, il y a absence de performance parce que c'est trop bas, c'est pas challengeant pour nous. Si le stress il est trop haut, c'est pareil, là c'est dans l'absence de performance parce que du coup c'est trop haut à atteindre et généralement
c'est mal vécu.
Mmh. Par contre là où il va être un peu plus néfaste, Eric, le stress, on se le dit bien, c'est que quand ça insiste, quand on par exemple quand vous êtes sur dans votre lieu professionnel et vous êtes sur un projet. Là, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus lourd pour vous à supporter parce que ça va être à répétition et donc ça va mener à l'épuisement.
C'est ça. Tout n'est pas forcément notion d'intensité, mais ça peut être aussi de durée d'exposition à la situation stressante. Et ça, c'est important. C'est qu'on est là pour mettre en place des mesures adaptatives physiologiques par des réponses qui sont comportementales, qui sont cognitives, par exemple. Mais une exposition récurrente, prolongée à une situation stressante dans laquelle on n'arrive pas à s'y adapter, dans laquelle on n'arrive pas à trouver de solution pour des raisons endogènes ou exogènes, peu importe, c'est pas du bon stress. C'est ce qu'on appelle du mauvais stress par nature. Que là où on sait qu'on est dans une situation transitoire, par exemple un changement de poste, changement de fonction, changement d'environnement professionnel, on sait qu'on est par exemple en période d'essai, on va devoir s'adapter à une nouvelle situation, à de nouveaux enjeux professionnels. On se mobilise, on sait que ça dure un temps. Plus les jours passent et plus c'est, entre guillemets, de plus en plus simple. C'est du stress adaptatif.
Exactement.
Et là, de toutes les manières, le cerveau est fait pour ça. Et le développement de l'être humain, le développement de ses capacités, passe par ces périodes de stress qui, par nature, n'ont pas vocation à s'éterniser, à laisser la personne dans cette difficulté-là. C'est une difficulté sur laquelle il va mettre des situations, des stratégies d'adaptation pour en sortir vers le haut, en gagnant en compétences, en connaissance de soi aussi.
Et en confiance, oui, exactement.
Exactement.
Alors, le stress, c'est une forme de peur, on n'en a pas parlé tout au début. Toi qui nous écoutes, tu sais bien que quand on va te parler d'anxiété, de stress, d'angoisse, tu comprends que c'est lié à la peur. Alors la peur, c'est pas quelque chose de néfaste, c'est pas quelque chose qu'il faut effacer de notre vie parce que tu as la peur du réel. Je suis face à un ours et là, je prends mes jambes à mon cou.
La peur est pratique
parce que je sens qu'il y a un danger imminent ou alors je veux combattre un ours, mais libre-à-toi.
Je l'ai fait la semaine dernière, mais après j'ai couru.
Au petit déjeuner, voilà. Si tu as envie de combattre un ours, mais bon. Voilà, ne faisons pas de mal aux animaux. Et du coup, il y a aussi cette peur qui est plutôt irrationnelle. Et là, on va aller sur des choses un peu différentes, un peu liées à l'imaginaire, à des croyances, comme on a parlé dans l'épisode précédent. Mmh. Là, la peur, faut savoir que ça libère de l'adrénaline. Donc, c'est sur un moment donné, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est éphémère.
Éphémère, d'ailleurs, on est à côté de personnes qui ont eu peur de la corneille qui volait.
Voilà.
Elles se sont mises à crier, elles se sont mises à courir, elles ont eu un petit shoot d'adrénaline.
Voilà.
Qui, si vraiment elles avaient eu très très peur, là, elles ont un peu peur, leur aura permis de prendre leurs jambes à leur cou, d'avoir un champ de vision plus rétréci de manière à aller plus facilement vers l'objectif. Mm. C'est typiquement une adaptation physiologique au stress.
Voilà. Et elles ont ce petit stress. Mais le stress a été tellement court que finalement, elles n'ont pas eu le temps de créer une anxiété ou de lier une angoisse sur cet événement-là.
Voilà. On est passé à quelque chose d'adaptatif, de superficiel, on pourrait presque dire ça. Là où, par contre, dans un autre niveau, on a nos amis les canetons, donc nous avons une sarcelle et un colvert qui reviennent nous voir. Là, elles adorent le passage. Alors, eux, ils ne sont pas du tout dans le stress. Là, on voit bien que la démarche, elle est tranquille.
C'est notre stress.
Et c'est vraiment notre stress, là, pour le coup. Et on a un deuxième niveau adaptatif qui est le stress adaptatif. Un autre niveau, là, on passe plus dans la pensée, dans le cortical, c'est l'anxiété.
Tout à fait.
Et oui, exactement. L'anxiété.
L'anxiété. Donc, l'anxiété, ce n'est pas pareil. Là, ça va être l'anticipation d'une menace future. Ça va, comme disait Eric, plutôt se loger dans la tête, dans la pensée. Et donc là, ça va être vraiment différent parce que déjà, le déclencheur chimique, ça va être le cortisol. Donc, on sait que c'est plus lourd, plus dense, plus long aussi,
à se dissiper.
Et là, il y a plus de réactions émotionnelles. Il y aura aussi plus de tensions physiques. Eric, toi, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail, peut-être, de l'anxiété?
L'anxiété, elle a pour caractéristique principale d'amener à une sensation plus généralisée d'appréhension. Elle est en général assez diffuse et elle se perçoit face essentiellement à des situations futures qui sont perçues comme menaçantes, pas évidentes, mais dans lesquelles on met en place un mécanisme d'anticipation qui va venir un peu faire grandir la réalité de l'enjeu ou de la difficulté. En fait, c'est une réponse qui, pour le coup, n'est pas forcément adaptée à la réalité de la problématique et de l'enjeu. Et elle est souvent liée à des situations plus spécifiques et délimitées, et qui va générer une réaction qui sera bien plus prononcée pour le sujet.
D'ailleurs, alors si là, je devais faire un petit parallèle et pour aider aussi à faire une transition vers le pays de l'angoisse...
Et ben. Le train fantôme.
Et ben du coup, je dirais plutôt, donc on l'a compris, que l'anxiété et l'angoisse, contrairement au stress, ça joue dans le mental. En fait, c'est des conditions de pensée. Sauf que pour l'angoisse, c'est pas relié à un événement. Par contre, pour l'anxiété, c'est relié à un événement. C'est la différence qu'on peut faire. Et si on passe sur une transition de l'angoisse, parce qu'on a des transitions parfaitement parfaites.
Même parfaites.
Yeah.
Yes.
Voilà.
On glisse sur l'angoisse.
Non, je glisse dans le train. Et je m'attache bien parce que là, on est toujours sur l'anticipation d'un danger. Mais par contre, qui est toujours accompagné d'une réponse qui est physique et généralement un sentiment d'oppression. Généralement ça se lit comme ça.
Mais la personne angoissée, dans l'évocation de ce qu'elle ressent, de ses symptômes, on voit très rapidement qu'elle le vit dans le corps. Là où le stress et l'anxiété, on était sur des situations plus spécifiques, d'adaptation, de conception, dans l'imagination d'une résolution qu'on n'arrive pas à mettre en place, l'angoisse. D'ailleurs, on parle souvent de crise d'angoisse. La personne la vit dans le corps. Ça peut se manifester de manière différente. On a des situations de maux de tête, de mal de ventre, de mal au dos, qui sont en fait complètement adossées à ce système de fonctionnement qui fait que le rapport à soi, à son corps, le rapport à l'environnement, le rapport au monde est un peu chamboulé, où on vit sa condition d'être au monde, face à des enjeux qui sont plus ou moins, cohérents ou réalistes par des manifestations plus profondes qu'est l'angoisse. Et justement, l'angoisse est d'une manière générale assez spécifique et liée à des situations concrètes et délimitées. Et elle est souvent décrite comme étant plus intense et provoquant des réactions émotionnelles aussi plus fortes que celles de l'anxiété. L'angoisse est aussi souvent associée à des épisodes plus brefs, plus aigus, et déclenchés ou non par des stimuli spécifiques, des situations d'anticipation, ou même des objets, et voire même des situations où il n'y a absolument aucun déclencheur.
Alors Eric, si on passait par la boutique des souvenirs, comme tout bon parc, on sort toujours par la boutique des souvenirs. Alors la boutique des souvenirs aujourd'hui, c'est quoi? C'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour limiter mon stress? Qu'est-ce que je peux faire pour adoucir mon anxiété? Ou qu'est-ce que je peux faire quand je suis face à une crise d'angoisse? Alors,
il y a plusieurs choses, ça dépend de la situation.
Voilà, rayon merchandise.
Exactement. Première situation, qu'est-ce qu'on fait par rapport au stress?
On peut déjà peut-être accompagner notre quotidien par des séances de sport.
Exactement. Essayer de ménager l'alternance entre les moments où on doit justement fournir l'effort adaptatif nécessaire et les parenthèses spécifiques plus calmes, recentrées sinon sur le corps, sur une façon d'évacuer un peu la tension cumulée dans la journée liée à un challenge professionnel, par exemple, ou un contexte de changement.
Voilà, c'est ça, savoir équilibrer nos énergies, savoir dire stop aussi, poser le crayon et puis faire autre chose. On a des métiers maintenant qui sont très hybrides, où on est beaucoup devant le PC, donc c'est savoir fermer le PC, se donner une heure, aller marcher en pleine nature. D'autres aimeront méditer, allez méditer, allez mettre en fait votre esprit en, pas en off, mais tout du moins...
De faire un peu autre chose, voilà. d'alterner les séquences. On peut par exemple vous proposer d'écouter un magnifique podcast qui s'appelle Sac à dos et qui est hébergé sur les bonnes plateformes.
Voilà.
Ça peut être intéressant. Ça, c'est pour la gestion quotidienne du stress, en fait.
Oui, tout à fait. Ça, c'est la gestion quotidienne. Donc, ça permet de libérer pour ne pas être dans un point de non-retour, surtout, et que ça soit compliqué, et physiquement, pour ne pas somatiser non plus, et mentalement.
Exactement, et puis surtout d'en parler. Il n'y a pas de mal, et au contraire, de partager avec vos partenaires de vie, votre environnement, vos amis dignes de l'oreille que vous leur accordez, de partager vos moments de doute, de difficulté, de stress, tout simplement.
Exactement.
Le fait de le verbaliser est un aide considérable pour passer à l'étape suivante, qui est l'adaptation.
Et qu'est-ce qu'on pourrait dire pour nos amis qui vivent l'anxiété ?
Là, on est sur un autre niveau encore. L'anxiété, n'est pas du tout liée, comme on l'a vu, à une situation adaptative. On est vraiment sur des mécanismes de pensée qui font que on va se projeter sur des échéances, on va se projeter sur possibles impossibilités à faire, etc., qui vont générer un mode de fonctionnement cognitif qui va aller un peu vers les scénarios compliqués. Et là, on est quelque chose dans des comportements souvent qui sont liés à notre propre structure psychique, à notre propre rapport au monde. On n'est pas dans l'adaptation, c'est un peu plus ancré, c'est plus lié à la personne. Donc là, il faut prendre les choses un petit peu différemment. La première chose, c'est ça, de faire la distinction entre le stress et l'anxiété, et de se dire à soi, peut-être que j'ai une nature anxieuse déjà, tout simplement, la première des choses. Accepter ce particularisme, ce singularisme du rapport au monde et au rapport au autre.
Et puis, surtout, demander de l'aide. Parce que alors, c'est vrai que, comme pour le stress, il est nécessaire de faire du sport, d'avoir une alimentation plutôt saine ou équilibrée, de limiter les substances un peu toxiques, de ne pas alimenter toutes ces choses-là, de garder... Alors, on n'est pas dans une vie de monastère, on est dans une vie quand même... mais que ça soit du plaisir, mais du plaisir qui soit sain aussi. Pouvoir le lier. Et puis se dire aussi que malgré tout ce qu'on met en place, parfois c'est intéressant de se dire comment je peux gérer. Alors on a vu qu'il y avait des cohérences cardiaques qui pouvaient aussi alimenter la respiration. Voilà, il y avait tout ça. Et puis demander de l'aide, parce que c'est pas facile de gérer en fait ces crises d'anxiété tout seul. Et puis selon l'endroit où on se trouve. C'est pas toujours évident.
Oui, c'est aussi d'identifier les situations qui sont favorables à son bien-être, celles qui sont plus exposantes. Ça peut être les environnements, ça peut être les personnes, ça peut être certaines situations, et de travailler autour de ça. Il y a la possibilité, bien sûr, d'en parler, mais peut-être d'exercices spécifiques comme la sophrologie, la respiration, comme on l'a dit, avec la cohérence cardiaque, qui reste un exercice de fond à exercer tout régulièrement, tous les jours. Ça peut être aussi la méditation, c'est la pratique sportive aussi. C'est tout ce qui va permettre aussi de mettre les suractivations un petit peu en veille par l'activation du système parasympathique. C'est toutes ces petites choses-là. Et puis, d'arriver à identifier les situations, les verbaliser, de se dire aussi à soi-même, je ressens ça, je ressens de l'anxiété, un certain mal-être, et puis de pouvoir aussi se faire accompagner par des personnes qui vont vous permettre d'identifier ce que sont vos mécanismes propres, la façon dont vous fonctionnez, la façon dont vous vous exposez aux difficultés. On sait qu'il y a une part un peu automatique dans tout ça, et le fait de porter par l'intermédiaire d'un professionnel un regard parallèle, un petit pas de contraste, permet d'identifier un peu ces situations-là et de les accompagner.
Allez Eric, avant de passer à la caisse et de prendre notre sac de souvenirs ou nos goodies, qu'est-ce qu'on peut amener comme petit plus dans nos rayons pour les personnes qui seraient face à des crises d'angoisse ?
Alors là, on est sur un autre degré encore.
Ouais.
On est sur du vécu, on est sur souvent des structures psychiques, névrotiques. Là, c'est la personne a été livrée comme ça par la cigogne. Voilà.
Il est poète.
Mais oui, mais en même temps, c'est vrai, c'est dans le programme. Alors, est-ce qu'on peut changer le programme ? C'est pas forcément évident de changer le programme. Par contre, ce qui est sûr, c'est que par le biais d'un bon accompagnement, par de l'écoute, par de la compréhension, apporter des clés de lecture à ces mécanismes qui sont pour le sujet très difficiles à vivre. Et en même temps, on va pas rentrer ici dans le schéma parce que c'est pas l'objet de ce podcast, mais elles sont aussi liées à des considérations aussi souvent psychopathologiques, donc qui nécessitent un accompagnement spécifique, bien évidemment, clairement identifié, dans certaines situations avec un diagnostic posé par un médecin. Mais voilà, l'angoisse aussi, elle a ses manifestations. Et ça passe aussi par une connaissance de soi, une compréhension de ses mécanismes, des temps de pause, peut-être une hygiène de vie un petit peu plus accentuée sur l'équilibre psychique, sur la façon de gérer ses émotions, son environnement, les contrariétés de la vie, de pouvoir y apporter la juste réponse. Pour le coup, l'angoisse, elle est vécue dans le corps, elle est difficile, elle peut être très lourde, elle peut être subite, elle peut être... un petit peu plus long au déclenchement, il faut se faire accompagner. C'est important de pouvoir partager sur cette problématique-là.
Et moi, j'aurais juste un petit clin d'œil à faire à toutes les personnes aidantes ou peut-être accompagnantes sur une personne qui serait à côté de vous et qui aurait peut-être un peu plus de difficultés à gérer leur stress, peut-être qu'ils font une crise de panique ou une attaque de panique, ou alors qui seraient peut-être sur une crise d'angoisse. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire quand on est spectateur de ce que l'autre vit, mis à part que vous pouvez l'aider par votre douceur. Alors déjà en gardant un timbre de voix qui soit plutôt doux et enveloppant, mais pas que, c'est leur demander ce que vous pouvez faire pour eux. S'ils n'arrivent pas à répondre, de simplement leur expliquer, nous allons nous asseoir ici, nous allons passer un temps ensemble, on va prendre le temps dont tu as besoin. C'est déjà les déculpabiliser de ce qu'ils vivent, parce que c'est pas facile quand ça leur arrive. En plus, pour le peu que ça soit dans un lieu public, avec les regards en fait... des autres, hein, des passants.
Oui, bien sûr, ceux qui ne savent
ça
pas.
Ça peut voilà, accentuer l'inconfort. Donc, c'est pouvoir déjà être dans un espace qui soit beaucoup plus calme et puis pouvoir vraiment les reconforter, simplement dire qu'on est là. Et puis, dès qu'ils arrivent à poser les besoins, bah, ils pourront vous répondre. Mais gardez beaucoup de patience et beaucoup de douceur le temps que, en fait, la crise passe, que le moment passe, que ce soit au moins confortable et aidant pour eux, pour pas accentuer les symptômes qu'ils sont déjà en train de vivre et qui est un vrai choc, un vrai percute émotionnel.
Donc, on arrivera de toutes les manières et tranquillement à réguler la situation. En général, les personnes angoissées savent comment elles fonctionnent et arrivent en général à savoir qu'il y a une issue, même si l'épisode n'est jamais agréable à vivre. On fera peut-être d'ailleurs un prochain podcast, un prochain numéro à venir sur comment on peut gérer tout ça.
Oui, sur les aidants.
Ça serait intéressant de voir comment, quel protocole utiliser dans telle situation, quelle action de fond à entreprendre pour pouvoir gérer son anxiété et ses angoisses. Mais ça fera l'objet d'un développement futur. Là, on voulait surtout d'abord vous apporter quelques clés de lecture et de compréhension sur ces différents mécanismes et ces différentes situations. Et vous l'aurez compris, elles sont assez différentes. Et d'une manière générale, l'anxiété pour une personne n'est jamais vécue de la même façon par une autre. Il y a autant de façons de le vivre qu'il y a de personnes. C'est ça aussi l'intérêt dans nos métiers, c'est qu'il peut y avoir un mot, une situation sur de l'angoisse, mais l'angoisse se portera et se vivra de manière différente d'une personne à l'autre. La richesse en même temps de nos métiers.
Exactement. Voilà. Les petites oreilles qui nous écoutent, nous, on va rendre l'antenne.
Voilà.
Même si on n'est pas à la radio.
À vous, Cognac J'ai. À vous les studios.
À vous les studios.
Et bah écoutez, à un prochain podcast. D'ici là.
À un prochain podcast sur le thème.
Sur le tam.
De la communication non violente.
Voilà.
C'est savoir poser ses limites, savoir dire non et utiliser la communication non violente. En attendant, vivez l'instant présent. On vous embrasse très fort.
Allez, à bientôt les oreilles.
À bientôt.